du grain à moudre, ça continue tout l'été, oui. Et ça s'appelle du grain à moudre d'été, c'est facile à retenir. Bonsoir à vous, bienvenue. Référendum, outil démocratique ou artifice démagogique pour l'interrogation? Voilà la question du jour. Et on ajoutera même oui ou non. La décision du gouvernement grec de poser aux électeurs la question de l'austérité et de ses modes d'expression fait remonter dans le débat une autre question, celle de la forme même de la consultation nationale, celle de la résolution d'une question politique par la réponse du peuple sans intermédiaire. Le référendum, ces dernières années, a beaucoup correspondu à des enjeux européens, mais pas uniquement. Et si on prend le prisme franco-français, le référendum est un thème qui se cristallise bien vite autour de la figure de De Gaulle, voire celle des Bonaparte, Napoléon puis Louis-Napoléon. Et pourtant, dans une période de défiance à l'égard des élites et notamment à l'égard des représentants politiques, le référendum apparaît aussi comme un moment rare de politique immédiate et de prise de parole de tous sur un sujet précis. L'arme du référendum, on en parle ce soir avec Gilles Delannoy, sociologue, directeur de recherche au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, Philippe Vigneron, économiste, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles, qui est en duplex depuis France Bleu Provence à Aix-en-Provence, et Olivier Roucan, politologue et chercheur associé au centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Gilles Delannoy, Olivier Roucan, Philippe Vigneron, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Philippe Vigneron, vous avez écrit dans Le Monde que vous ne partagiez pas le point de vue de ceux qui voient dans un référendum grec à propos du plan d'austérité imposé par l'Union européenne un acte positif de bonne démocratie, je vous cite, et ça vous l'avez écrit en novembre 2011. Déjà en 2011, déjà l'austérité, déjà le peuple grec, c'était une éventualité envisagée par le Premier ministre de l'époque, Georges Papandréou. Il en avait finalement abandonné l'idée. Vous disiez en substance que le référendum est un élément perturbateur de la démocratie représentative. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec vous-même?
Mais quand on voit ce qui s'est passé hier, je pense que les Grecs n'ont pas vraiment répondu à la question qui était posée. Mmh. Ils ont répondu à la question de savoir si on continuait avec Tsipras ou pas. Mmh. Ils n'ont pas dit oui ou non à l'Europe. Je pense d'ailleurs que c'est plutôt oui, comme votre journaliste l'a mentionné dans le journal qui a précédé, qui était très bien fait d'ailleurs, qui résumait très bien les choses.
On transmettra.
Mais je pense que la question qui était posée était une question complexe, technique, mmh. et que je suppose tous les Grecs n'ont pas eu en main. Je ne sais pas d'ailleurs,
Dans quel sens ils n'ont pas eu en main?
Ben, c'est-à-dire que on a beaucoup parlé de l'organisation de ce référendum, mais je n'ai lu nulle part qu'on avait distribué au peuple la proposition qui était faite par les créanciers. Or, c'était ça la question, c'était de savoir si oui ou non on acceptait cette proposition.
Mais la question précisément,
bien
c'est...
Bien sûr, c'est un document très complexe.
La question était longue, effectivement. Faut-il accepter le plan d'accord soumis par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international lors de l'Eurogroupe du 25 juin, qui est composé de deux parties, deux points, ouvrez les guillemets, réforme pour l'achèvement du programme en cours et au-delà, et, ouvrez les guillemets à nouveau, analyse préliminaire de la soutenabilité de la dette, fermez les guillemets, point d'interrogation. Et en plus, il y avait des mots en anglais. Ces choses-là étaient nommées en anglais sur la question et sur les bulletins.
Et le sous-jacent, c'est-à-dire quel était le contenu de cette proposition, je crains que dans l'urgence, en plus, la plupart des Grecs n'ont pas eu le texte devant eux. Et même s'ils l'avaient eu, c'était un texte très complexe à analyser, qui est le résultat provisoire, si j'ai bien compris, d'une négociation en cours.
Gilles
Delannoy.
Donc, voilà. Oui, je vais passer la parole à Gilles Delannoy qui est là oui, dans le studio. Un des écueils du référendum, de la forme référendum, c'est cette idée de voter pour autre chose que la question.
Oui, bien sûr, mais bon, pour ma part, je ne dirais pas qu'on puisse parler du référendum en général et dire. Je suis pour le référendum ou contre le référendum.
Ouais.
Ça n'a rien à voir entre certaines votations en Suisse qui se passent parfaitement bien et l'exemple opposé qui est le référendum du 19 août 1934 où Hitler propose de fusionner dans une ambiance de terreur les fonctions de chancelier et de président. Voilà les deux extrêmes du référendum et puis entre les deux, vous avez des référendums de gens plus ou moins informés qui résument la question, puisque ce sont parfois des questions de confiance, parfois des référendums plébiscites avec une dimension personnelle, parfois des référendums qui intéressent peu, comme celui sur la Nouvelle-Calédonie en France. des référendums qui passionnent, comme les deux référendums français de 1995 et 2005 sur le traité de Maastricht et la dite constitution européenne. Donc je pense qu'il faut voir cas par cas. En tout cas, personnellement, je ne dirais pas le référendum c'est bien ou c'est mal, et j'ajoute, c'est vrai pour toute procédure politique.
Oui, mais là, on était précisément avec Philippe Vigneron sur la question du référendum grec. Alors, est-ce que dans ce cas-là...
On peut essayer de l'analyser. Oui. Une première analyse nous a été proposée par immédiatement, c'est êtes-vous pour ou contre Tsipras ? On peut aussi penser que si on est légèrement plus généreux avec la procédure référendum, et qu'on la prend au sérieux, qu'au fond, le dirigeant grec a dit « je ne sais plus quoi faire mm-hmm. », décider à ma place. Ce n'est pas très glorieux, mais c'est une autre manière de comprendre les choses. Je ne peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je maintiens ma position ou est-ce que je m'en vais ?
Est-ce que vous dites que ce n'est pas très glorieux ? Est-ce que c'est courageux ?
Mais politiquement, c'est clair, je mm-hmm. dirais.
Mais est-ce que c'est courageux ?
Oui, je pense
Olivier
que, les citoyens grecs comprenaient le pourquoi de ce vote. Alors... En 92, sur Maastricht, on a déjà eu cette critique. Qui avait lu le traité de Maastricht et qui, donc, se prononçait en pleine raison et toute conscience sur tous les détails du traité. Évidemment, le débat politique sur un moment référendaire est saturé par des considérations symboliques. Il y a une simplification du débat. On n'est pas dans une enceinte parlementaire entre experts, parlementaires spécialistes d'eux. Et c'est bien d'ailleurs là sinon le clivage, la complémentarité entre la démocratie représentative et lorsqu'elle devient incompréhensible, illisible et qu'elle patine, eh bien il y a des dispositifs, dont le référendum, qui peuvent permettre de réinsuffler un peu de légitimité. Et je dirais une chose également par rapport à la démarche de Tsipras, c'est qu'il il agit en politique. On retrouve là pleinement le politique dans un univers qui est saturé de technique et de finances. Il utilise une marge de manœuvre politique. On a peut-être perdu un peu l'habitude, mais lui... quel est son intérêt ? S'il ne fait pas ce référendum et qu'il accepte les conditions, il est dans une situation en interne qui est intenable très vite. Ce référendum lui redonne une légitimité, peut-être, pour accepter les conditions qui sont posées. Et dans tous les cas, il me semble que c'est ce qui a dû compter pour lui dans la décision d'organiser le référendum. Je rajoute un troisième point,
oui.
C'est que l'état de droit, c'est quand même important. Et en l'occurrence... l'équivalent du Conseil constitutionnel a donné son aval. Alors, c'est quand même un garde-fou. Et d'ailleurs, rappelons qu'en France, sur une procédure référendaire, le Conseil constitutionnel n'est pas automatiquement saisi. Donc, de ce point de vue, les Grecs n'ont pas de leçons à recevoir sur, on va dire, la qualité de l'état de droit sur cette opération.
Ils sont dans les clous constitutionnels.
Oui.
Philippe Vigneron. Sur ce sujet.
Oui, je le pense aussi. Je partage tout à fait ce point de vue. Ce référendum renforce la légitimité de Tsipras et lui permet d'avoir, disons, une stature renforcée dans ces négociations. Ça, je ne le nie pas. Au-delà de cela, on se heurte évidemment à la question « et alors ?» avec les partenaires. C'est-à-dire qu'au niveau de politique intérieure, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, mais sur le plan de la négociation, le référendum peut compliquer les choses. Le non-référendum peut compliquer les choses. Elle va braquer certains négociateurs et on va mettre peut-être un certain temps, il faut beaucoup de pragmatisme, certains n'en ont pas, pour relancer les négociations. Qui doivent être relancés de toute façon.
Il y a un mot qui arrive assez vite quand on parle du principe même du référendum, c'est le mot de plébiscite, donc de consentement donné à une seule personne, consentement donné au pouvoir d'une seule personne. Selon votre analyse à vous, Philippe Vigneron, grosso modo, le référendum d'hier, c'est un plébiscite pour Tsipras.
D'une certaine manière, oui.
C'est un des écueils de la forme référendum. Alors, les uns et les autres, vous avez produit des textes, vous avez imaginé des formes où, justement, on peut tenter d'éviter ces écueils-là, Gilles Delannoy.
Oui, un point d'étymologie, d'abord. plébiscite chez les Romains, ça veut dire référendum aujourd'hui. C'est toute l'histoire moderne qui nous a amené à faire une très utile, d'ailleurs, séparation entre un plébiscite, qui effectivement s'approcherait un peu plus de ce que les Romains appelaient la dictature, et non pas le plébiscite, c'est-à-dire d'engager vraiment une confiance politique limitée ou illimitée envers une personne. Mmh. Donc il y a un usage plébiscitaire du référendum, qui peut d'ailleurs être respectable quand, comme le général de Gaulle, vous démissionnez en 69, mais c'est un usage plébiscitaire et personnalisé. À l'extrême opposé du référendum qui porterait sur les questions, et non pas sur les personnes, il y a un moyen technique très simple d'éviter qu'une question référendaire. Alors ça ne s'applique pas très bien au cas grec, je le reconnais. Encore que, je pourrais vous faire une suggestion sur ce point. Si l'on veut dépolitiser un référendum, faire qu'il ne soit pas une question de confiance, un soutien à la majorité et à la minorité, il suffit de poser plusieurs questions le même jour.
Oui.
Et des questions sur des sujets différents. Ça devient extrêmement difficile de dire je vote pour ou contre le gouvernement, et on ne pouvait tout à fait imaginer qu'on demande aux Grecs aussi, puisque tant qu'à faire des référendums, certaines des réformes structurelles qui vous sont proposées, les soutenez-vous ou non.
C'était bien ça le nœud du problème, c'est que ce qui était proposé, c'était pas la question de l'austérité, c'est aussi les moyens, les modes par lesquels, les mesures à prendre. Voilà. Mais quand vous dites plusieurs questions, Gilles Lannoy, il faut être bien précis, c'est-à-dire plusieurs questions auxquelles on répond une après l'autre. Ça existe, ça existe déjà ce type de vote.
Bien sûr, bien sûr.
Et alors qu'est-ce qui empêche d'imaginer ça? Qu'est-ce qui bloque, d'après vous?
En général, ce qui bloque, c'est qu'on est dans des régimes qui utilisent peu les référendums. Donc, ils n'ont pas cette habitude, ils n'ont pas ce souci technique de poser plusieurs questions le même jour, même quand c'est dans les intérêts des dirigeants. L'autre raison, probablement, c'est qu'une bonne partie des dirigeants en démocratie représentative essaient eux aussi de manipuler, parce qu'ils nous disent toujours les gens ne répondent pas à la question. Mais eux ne posent pas toujours exactement la question de bonne foi non plus, reconnaissons-le. Ils veulent faire un coup politique, ils veulent diviser l'opposition. C'est pas très sérieux non plus d'utiliser le référendum de cette manière.
À vous, Olivier Roucan, vous imaginez, en tout cas vous avez imaginé dans des textes, qu'il fallait faire un référendum tous les 5 ans, grosso modo, à la 4e année du mandat présidentiel.
C'est-à-dire que je situe la réflexion là dans le cadre global des démocraties qui sont devenues des démocraties d'opinion, du public, avec une dimension, alors qu'on peut regretter, mais qui est là, une dimension forte de personnalisation et de dramatisation. C'est-à-dire que on parle beaucoup du référendum du fait de l'actualité, mais convenons que les élections, y compris législatives, si on prend l'exemple de la démocratie mère du régime parlementaire au Royaume-Uni, sont très personnalisées. Donc sur la personne, le caractère du Premier ministre. Donc on parle souvent en France d'une dérive présidentialiste, mais en fait cette dérive présidentialiste, on peut la constater partout. Donc la personnalisation, la simplification à outrance du débat n'est pas que référendaire.
C'est déjà du oui ou non ailleurs, quoi, y compris dans les élections présidentielles, élections législatives.
C'est-à-dire que les élections qui permettent d'attribuer le pouvoir et non pas de prendre une décision en cours de mandat sont elles-mêmes très donc saturé par cette personnalisation et même par cette caractérologie, la dimension people de la vie politique et de nos démocraties. Bon, là, on peut dire quand même que ce référendum, il est porté par une personne, mais il y a quand même une dimension de fond qui n'est pas oubliée. Et d'ailleurs, les référendums gaulliens, qui étaient des questions de confiance, quand même, portées également sur le fond. Donc, ensuite, tout dépend du moment et tout dépend. Le référendum, par exemple, que François Mitterrand et Michel Rocard organisent sur la Nouvelle-Calédonie, était relativement dépersonnalisé.
En 88.
Il permet de régler de façon assez pacifiée une question qui ne l'était pas du tout quelques mois auparavant. Donc il n'y a pas en effet de le référendum unique qui est forcément un outil clivant, simplifiant. On peut avoir des référendums et notamment sur le plan local, il y a la possibilité d'utiliser le référendum en droit. Mmh. Il ne l'est pas, référendum décisionnel en fait, parce que la culture des élus en France est trop représentative, pourrait-on dire. Mais on peut imaginer que cette complexité et cette moindre personnalisation des référendums pourraient mieux passer au niveau local.
Mais justement, sur cette idée d'un référendum tous les 5 ans, en quoi ça dépersonnaliserait
Ah, pas du tout, ça dépersonnaliserait. Voilà. Je vous dis, là, je situais le papier, puisque vous faites allusion à ce papier, la réflexion dans le cadre de nos démocraties très saturées par cette personnalisation et dramatisation. L'idée, là, c'était simplement de responsabiliser le pouvoir en cours de mandat, suite à ce qui s'était passé en 2005. C'est-à-dire qu'on a bien vu en 2005 que le référendum perdu sur le traité de constitution européenne avait totalement paralysé l'action publique dans les deux ans qui suivaient. 2005 à 2007, le pouvoir était tétanisé. Donc là, pourquoi, sur un enjeu aussi important avec un référendum perdu, le pouvoir reste-t-il en place ? Donc c'était un peu l'idée, mais ça suppose des tas d'autres choses pour la France, de reposer peut-être la question du quinquennat. Donc là, si vous voulez, on n'est pas
dans... une sacrée réforme constitutionnelle. Par contre, il y a un nom qui a été plusieurs fois cité, c'est celui du général de Gaulle. Et effectivement, cette question du référendum nous replonge dans une époque où le son était en noir et blanc. On va entendre la Waldeck-Rocher, secrétaire national du PCF en 68, et puis ensuite Pierre Mendès-France. C'est le 25 mai 1968, de Gaulle, donc président de la République, parle d'en appeler au peuple. Il envisage ça, et voilà ce qu'ils en disent, Waldeck-Rocher. Puis Pierre Mendès-France.
Première observation, le président de la République a reconnu le profond malaise qui pèse sur le pays et la vétusté de ses structures économiques, sociales et universitaires. Deuxième observation, il n'a préconisé contre cet état de choses aucun remède précis sinon la promesse de se pencher sur les problèmes. Troisième observation, et c'est, je crois, la plus importante, c'est que la forme même de la consultation préconisée s'apparente davantage à un plébiscite qu'à un référendum. Enfin, le gouvernement qui se targue de sa stabilité a les moyens de régler quantité de problèmes, sinon tous, sans recourir à une procédure exceptionnelle qui, en dépit de son apparence, est loin d'une véritable démocratie.
Je ne cache pas que je suis consterné. J'attendais du chef de l'État, après 7 jours de réflexion, des propositions. Dans cette crise qui est caractérisée par le fait que des millions de Français de toutes conditions veulent se voir enfin reconnus le droit de gérer leurs propres affaires, le pouvoir, une fois de plus, se contente de leur demander un blanc-seing pour réaliser ces transformations dont il a enfin découvert la nécessité et l'urgence. Alors, un plébiscite, ça ne se discute pas, ça se combat.
Voilà, plébiscite ou blanc-seing, voilà les termes qui reviennent quand on parle et qu'on parlait à l'époque, donc en 1968, du référendum envisagé par le général de Gaulle. Donc à la fin, c'était Pierre Mendès-France, juste avant, c'était Waldeck-Rocher, donc secrétaire national du Parti communiste à l'époque. Alors Mendès, c'est d'autant moins étonnant qu'il rejetait déjà depuis le début de la Ve République la personnalisation du régime. Et l'héritier, peut-être, du mendésisme aujourd'hui, Michel Rocard, est un peu sur la même ligne en disant, bon voilà, le climat, l'environnement d'un référendum fait autant pour la réponse que la question peut-être même plus. Est-ce que le référendum peut être un outil moderne de politique et de gouvernance, Gilles Delannoy ?
En tout cas, la terre qui est le moins prédisposée au référendum, la patrie, la mère patrie du parlementarisme, l'a utilisée 2 fois récemment, en 75 pour voter sur l'Union européenne et en 2011 pour suggérer une réforme du mode de scrutin. Donc l'avenir n'est pas totalement bouché pour le référendum, plus le référendum très récent sur l'Écosse, mais qui ne concernait que les Écossais.
Donc vous parlez bien de la Grande-Bretagne.
Je parle de la Grande-Bretagne. Et je voudrais dire aussi pour l'Union européenne n'est pas une démocratie. Mm-hmm. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Ou plus exactement, elle est une démocratie déléguée. C'est-à-dire que des gens élus dans leur pays nomment des techniciens. Il n'y a que 2 voies démocratiques principales à notre disposition. La démocratie parlementaire, très difficile pour l'Union européenne, puisque le seul modèle qui compte, c'est le modèle anglais. Il faut une majorité, une opposition, et qu'on puisse alterner la politique. Pour l'instant, le Parlement européen ne permet pas. Peut-être aurait-on dû, au lieu de le faire en hémicycle, le faire comme à la Chambre des communes et mettre la majorité en face de l'opposition et obliger les députés européens à se situer. Ça aurait été une possibilité. L'autre forme, la seule, ça serait, au lieu de freiner l'usage des référendums nationaux, l'organisation de référendums européens. Après tout, c'est peut-être le caractère national des référendums qui fait peur aux élites de Bruxelles.
Avec cet avantage que tout se passerait au même moment.
Voilà, tout se passerait au même moment sur une seule question, avec souvent, pardon pour l'adjectif fédéral, mais la soupape fédérale ou la protection fédérale, c'est qu'il faut la moitié aussi des membres votant oui, en général, dans des référendums de ce type. Et puis, on pourrait toujours demander aux pays qui ont voté contre la question adoptée au niveau européen de revoter pour voir s'ils n'ont pas changé d'avis compte tenu du résultat. Évidemment, il y a un risque, il faut être courageux, c'est que quelquefois, la réponse sera non.
Oui, c'est ça. Philippe Vigneron, à France Bleu Provence.
Oui, ben, je partage évidemment grosso modo ce point de vue. C'est qu'au niveau européen, les référendums nationaux sont vraiment difficiles à mettre en œuvre dans la mesure où la légitimité des résultats de l'un se heurte à la légitimité des résultats de l'autre. Pour revenir au référendum de 2005, quand j'ai entendu des hommes politiques français dire « le peuple a voté, il n'y aura pas de traité », alors qu'en Espagne, il y avait un référendum qui avait donné 73% de oui à ce projet, ben, les Espagnols pouvaient dire « le peuple a voté, il y aura un traité ». Donc je partage ce point de vue que si on veut organiser des référendums sur des questions européennes, il faut le faire, effectivement, il faut trouver une méthode pour le faire au niveau européen.
Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avec l'Irlande sur le traité de Lisbonne. L'Irlande a d'abord dit non, et ensuite il y a eu un aménagement des termes du traité de Lisbonne, et ensuite l'Irlande a dit oui. Par exemple, ça peut être aussi une marge de manœuvre pour dialoguer, en tout cas, si l'on négocie.
Oui, avec évidemment l'écueil que l'on peut ainsi organiser des statuts un peu particuliers sur certaines politiques ou certaines questions éthiques ou d'autres, puisque l'Irlande, effectivement, a obtenu un statut particulier sur certains sujets. Mais pour le reste, oui, un référendum qui se déroulerait en même temps dans les différents États, avec une majorité à trouver en nombre d'États, en nombre de votants, etc., aurait plus de raisons d'être, certainement, au niveau européen. J'en profite pour dire qu'effectivement, j'ai pas évoqué les référendums locaux. On en a plusieurs fois parlé, et je pense qu'effectivement, il y a un avenir là-dessus. La Suisse est un bon exemple.
Les votations de la Suisse, voilà.
Votations, voilà. J'appartiens à un pays qui n'a pas du tout de culture référendaire. En Belgique, c'est anticonstitutionnel. Il n'y en a jamais eu, sauf un, dans des circonstances, disons, particulière, c'était la question royale en 1950. Et donc, c'est vrai que peut-être mon opinion, peut-être un peu dure, sur, que j'ai exposée dès le début, vient de cette culture-là.
Mais vous voulez dire que le référendum local, voire d'initiative locale, serait une manière d'approcher un usage du référendum moins problématique ou moins discutable?
Tout à fait. Tout à fait.
Mais pour quelle raison? Parce que l'information circule mieux? Parce que...
Oui, parce que la thématique est mieux cernée, elle est plus limitée, elle est plus factuelle, enfin dans la plupart des cas, je suppose, et donc il pourrait effectivement y avoir un avenir pour utiliser recourir à ce genre de votation comme vous l'avez cité.
Olivier Roucan,
mais ça nous éloigne du cas grec, évidemment.
L'émission de ce soir s'éloigne un peu volontairement du cas grec pour bien comprendre l'enjeu aussi autour de la forme référendum. Olivier Roucan, vous êtes en faveur de référendum à l'initiative de régions, par exemple, d'un certain nombre de régions ou de collectivités locales.
Oui, ça existe en Italie sur le mode abrogatif, c'est-à-dire que c'est un référendum qui peut déboucher sur une abrogation d'un texte qui a été voté. Ce qu'il y a d'intéressant dans des tas de dispositifs, des articulations très différentes en fonction des cultures nationales, parce que ça permet de rappeler quand même que pour l'instant, le référendum au niveau européen me semble possible si les institutions européennes retrouvent de la légitimité et sont recadrées, parce que là, qui comprend encore le fonctionnement des institutions européennes? Donc ça suppose quand même qu'il y ait ce travail de refonte, et peut-être dans une perspective plus fédérale. Mais dans tous les cas, pour revenir à votre question, donc le référendum, c'est un outil qui... c'est un des outils, un des dispositifs avec plein d'articulations qui peut être intéressant pour, parce qu'on en est là, pour réinsuffler de la légitimité au système politique aujourd'hui, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, mais qu'au niveau européen. Il y a une perte de légitimité, de confiance dans cette démocratie, on va dire, à la fois parlementaire et très technostructurelle. Ça ne fonctionne plus. Et les clivages, notamment de droite-gauche, perdent en pertinence. Parce que il y a une incompréhension, une déshérence d'une partie de l'électorat, une partie croissante. Et on voit bien d'ailleurs que lorsque des référendums régionalistes sont proposés, hein, on parlait de l'Écosse, on pourrait parler de la Catalogne.
Il y a eu un référendum fantôme, c'est-à-dire qu'il n'était pas reconnu par Madrine, mais il a eu lieu quand même sur l'indépendance de la Catalogne.
Oui, parce que la Constitution dit qu'il n'y a que la loi, et encore c'est sur le mode consultatif d'ailleurs, comme au Royaume-Uni, hein, le référendum n'est que consultatif a priori. Alors il est clair que lorsque le peuple se prononce ensuite, le Parlement
c'est compliqué suit, de pas mais... entériner. Ouais.
Bon, oui, mais alors... donc ça a été invalidé en Espagne, mais il a eu lieu, j'allais presque dire, dans la rue, ce référendum. Ce qui est d'ailleurs problématique, parce que là, on sort de l'état de droit. Et là, alors pour le coup, on est sur des dérives possibles, à la fois nationalistes, et alors je ne vais pas employer ce terme parce qu'il veut tout dire et son contraire de populiste, qu'on a entendu à nouveau ces jours-ci, mais avec lui, il faut faire très attention. Alors l'intérêt, c'est quand même de recadrer tout ceci sur le plan du droit, mais ne pas oublier l'enjeu politique majeur, c'est qu'il faut revivifier nos démocraties.
France Culture, du grain à moudre d'été, Thomas Baumgartner.
Au lendemain du nom grec, donc on pose la question du référendum dans le grain à moudre d'été. Le référendum comme type de consultation démocratique avec Gilles Delannoy, sociologue, directeur de recherche au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Philippe Vigneron, économiste, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Et Olivier Roucan, politologue et chercheur associé au centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. C'est une question bête que je vais poser, mais il faut que je pose des questions bêtes de temps en temps. Aujourd'hui, l'habitude est prise quand même par une majorité de gens de prendre la parole et de donner son avis, donner son opinion, parfois dans le sens du vent, parfois très réfléchi, mais de le donner dans la sphère publique, de le sortir de la sphère publique à travers les réseaux sociaux. Et ça peut être des questions très politiques. Et ces jours-ci, par exemple, sur la question grecque, on a pu voir, évidemment, non seulement des tribunes dans les journaux, des prises de parole à la télévision, mais beaucoup de gens et de gens, de tout un chacun, des voisins, des amis, ou pas, qui prenaient la parole et qui donnaient leur avis. Est-ce que ça peut changer la question de la forme du référendum du point de vue de la prise de parole politique, Gilles Delannoy?
À mon avis, ça peut influencer beaucoup les campagnes référendaires. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand une question est posée, c'est un autre moyen de communication que le fameux préau d'école ou même les émissions radio-télévisées que chacun écoute. Est-ce que ça va changer profondément, essentiellement, la nature d'un référendum, et qu'un référendum à l'époque des réseaux sociaux n'aura plus rien à voir avec ce qu'était un référendum 20 ans avant, ça je ne pense pas. Mm-hmm. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de très fort dans le fait d'être confronté à une question, de devoir en débattre avec les gens autour de soi. Je voulais ajouter juste un détail sur l'Union européenne. Ouais. Ici, le référendum est plus appliqué, est un peu plus souple du point de vue dans les cas de multilinguisme. Parce qu'on a une question qui est transcrite dans toutes les langues. Si on votait pour un président de l'Union européenne, il faudrait bien qu'il s'adresse dans une ou deux langues, ouais, à la plupart des gens. Il ne pourrait pas s'adresser dans 20 langues, vous voyez ce que je veux dire.
Et vous voulez dire que ça change la nature de la question, en tout cas le fait de devoir
traduire.
Oui,
mais c'est plus souple. C'est un peu plus souple. C'est ce qu'expérimentaient les Suisses, d'ailleurs. Hein, une des raisons, je pense, outre l'adoption de la démocratie directe en quelques décennies à la fin du 19e siècle, ça leur permettait aussi de surmonter le clivage linguistique, l'usage du référendum.
C'est le référendum, pour repenser à la question de la passion politique qui peut s'allumer quand un référendum se présente à l'horizon, et qu'effectivement il y a une multitude de campagnes. Je pense que si on se souvient de 2005 et en France du référendum sur le traité constitutionnel européen, il y a un côté agora un peu plus large que d'habitude. Il y a une passion politique qui naît. Alors je ne sais pas, sans aller jusqu'à ce que j'envisage à l'instant lié à la prise de parole sur les réseaux sociaux, mais le référendum est un accélérateur de prise de parole politique, Philippe Vigneron, non?
Tout à fait, oui, je pense. Le problème, c'est que effectivement, pour avoir vécu de près le référendum de 2005, On entend vraiment n'importe quoi, parce que dans un référendum qui est basé sur un texte de traité, ben évidemment, vous allez prendre les éléments du traité qui vous conviennent ou qui vous conviennent pas, et négliger les autres, et faire monter, si vous voulez, la pression pour le non ou pour le oui.
Donc, là, vous parlez des partis politiques, vous parlez
des
partisans.
Beaucoup de choses, on a vraiment entendu beaucoup de choses fausses sur ce traité lors du référendum de 2005. Donc, je ne suis pas contre, évidemment, le fait que les gens puissent s'exprimer, bien sûr.
Mais ça s'appelle la démocratie. Avant,
ouais. Il y a évidemment, oui, bien sûr. Mais sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de gens qui se lâchent et de la récupération, de l'instrumentalisation de certains textes.
Mais ça,
qui
c'est vrai pour
tout
toute campagne.
Oui, Olivier Roucan a raison. C'est vrai pour à peu près toute campagne. C'est juste que ça concerne peut-être directement dans la prise de parole et dans l'animation de cette passion politique un peu moins de gens, mais c'est vrai à peu près tout le temps. Philippe Vigneron.
Oui, simplement, ce que je voulais, je situais la chose au niveau du traité de 2005, parce que justement, c'était une question qui portait sur un traité. Et que donc, par conséquent, on pouvait faire dire ce qu'on voulait de ce traité en le saucissonnant et en découpant une partie ou une autre. Parce que personne, finalement, ne l'avait lu complètement. Même les gens qui, comme moi, ont travaillé pendant des années dans ce domaine, n'ont bien sûr jamais lu le traité complètement pour s'en faire une opinion globale. C'est très difficile. Mais vous avez raison que dans toute campagne politique, il y a effectivement des arguments qui sont évoqués, qui sont tronqués, qui permettent de soutenir telle ou telle position finale. Oui, certains.
Gilles Delannoy. La critique est tout à fait juste. On a pu aussi faire remarquer, d'ailleurs, avec un angle légèrement plus favorable au référendum, qu'il était en effet absurde de soumettre un texte aussi long, mais que ça prouvait que ça n'était pas une constitution, puisqu'une constitution doit être plutôt courte et obscure, selon la célèbre formule. Et juste techniquement, un petit détail aussi, il y a une distinction très importante en matière de référendum, on peut les faire avant ou après les lois, et le Parlement intervient toujours. Quand on les fait avant, on ne fait que donner une direction aux législateurs. On pouvait tout à fait faire un référendum européen en demandant aux Européens « Voulez-vous une constitution ?» Ça aurait même été très logique dans le domaine du droit constitutionnel. Et si vous en voulez une, on va se réunir, on va la faire. C'est très différent. On peut donner des options sur la réforme des retraites en France. On, au lieu de faire une loi et de dire au peuple, dites oui ou non, voilà, signez ou ne signez pas. C'est ce que j'appelle les référendums de consentement. On ne peut dire que oui ou non. Dire oui ou non, c'est assez contraignant quand même. On peut tout à fait, au contraire, faire des référendums qui portent sur des options. Et on laisse au législateur le soin de faire son travail technique une fois la grande option légitimée par l'assentiment populaire.
Avec l'avantage de peut-être diminuer certaines tensions politiques, de les régler en tout cas pour la suite, non, c'est
bien,
ça?
Bien entendu.
Olivier Roucan.
Avec le risque ensuite, en même temps, on le sait que le peuple sera forcément un peu frustré. C'est comme quand sous la 4e République, il y avait un vote législatif et ensuite, comme les partis négociaient tout le temps leurs alliances, on se retrouvait avec des gouvernements qui étaient opposés finalement à la signification globale du vote. Donc, il y aurait ce risque. Et c'est toujours, oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de solution. Le modèle de 58, on peut dire que c'est celui du référendum décisionnel. Le peuple a le droit de décider, mais il y a vraiment des garde-fous alors et je reviens un peu là-dessus, hein, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, pour justement empêcher toute dérive bonapartiste ou alors entre guillemets plébiscitaire ou dans tous les cas autoritaire, c'est-à-dire que le référendum, il a besoin d'un cadre qui est celui de l'état de droit, mais comme toute consultation finalement.
Et le garant, c'est que c'est le Conseil constitutionnel par exemple?
Oui, bien sûr. En France, ce serait le Conseil constitutionnel, à condition de réviser d'ailleurs la Constitution pour rendre cette décision obligatoire pour tout type de référendum, hein, puisqu'on en a plusieurs, et que dans la Constitution, on l'a rendu obligatoire pour certains référendums, notamment si c'est une proposition législative, mais pas si c'est un projet du gouvernement. Donc, voilà, ça fait partie des éléments un peu techniques à quand même bien surveiller, notamment si on s'engage dans des voies européennes, parce que par rapport à la charte des droits fondamentaux, ce sont des choses à regarder de près. Mais là, on rentre à nouveau dans une ingénierie, une machine, et il est vrai qu'aujourd'hui, alors ensuite, il y a tous ces dispositifs de démocratie dite participative qu'il faut sans doute examiner de beaucoup plus près qu'on ne le fait, et pas seulement en France. Bon, ces affaires, on entend parler là de budget participatif à Paris à nouveau, mais les jurys citoyens, les conférences de consensus, on parlait tout à l'heure du niveau des collectivités locales avec l'enjeu du développement durable, peut-être des laboratoires intéressants pour impliquer en permanence, dans une sorte de démocratie continue, comme le dit notamment Dominique Rousseau, les citoyens, parce que le débat trop simplifié, trop caricatural, il est là parce que on vote tous les temps d'années avec des débats trop simplifiés. Entre-temps, on exprime des frustrations et puis point barre. Et donc la démocratie se simplifie trop, elle est caricaturale, elle dysfonctionne parce que il n'y a pas ce processus continu. Et c'est, à mon avis, peut-être un début de solution à notre crise de légitimité serait là.
Serait là à travers l'outil du référendum, sur des questions précises, ou alors de la
Une panoplie d'outils plus participatifs, de consultation, mais aussi de décision. Et là, les laboratoires, ils sont proches des gens, c'est-à-dire que là, c'est aux collectivités territoriales, j'allais presque dire, à se bouger. Alors certaines sont innovantes, il faut prendre. Et l'enjeu du développement durable, depuis le début, là-dessus, est assez innovant. Donc, comme il revient, il est très présent dans le débat, c'est une occasion, à mon avis, notamment dans cette COP21, là, de reparler toutes ces affaires.
La COP21, oui, qui aura lieu fin novembre, début décembre à Paris, sommet mondial sur le climat. Vous le dites d'ailleurs, Olivier Rocamps, qu'il y a des questions spécifiques qui se prêtent plus à la consultation, quelle que soit la forme, et notamment l'énergie. Vous dites développement durable, la question de l'énergie aussi. Ça, c'était une des propositions, d'ailleurs, je crois, de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne de 2012. Il parlait de ça. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup des candidats, je ne suis pas sûr que François Hollande soit le cas, parce qu'il dit qu'il n'aime pas le référendum, mais que beaucoup de candidats à la présidentielle de 2012 imaginaient des référendums. Par exemple, Nicolas Sarkozy proposait un référendum sur la responsabilité des chômeurs. Donc Jean-Luc Mélenchon sur la question...
Oui, alors c'est là où le cadrage par l'état de droit est important. Il y a des questions quand même. Le référendum, je vous dis développement durable pour essayer d'imaginer l'avenir, les générations futures. Là, il y a des choses. Bon, ensuite, il faut faire attention aux questions. Et puis, quant à François Hollande, il n'a pas toujours dit ça. Et c'est le souvenir de 2005, peut-être qu'il le rend prudent. Mais...
Non, mais cette question-là est intéressante. Pourquoi on parle énormément de référendum, en tout cas dans la campagne de 2012, je crois aussi dans celle de 2007. Pourquoi on en parle beaucoup? Et finalement, donc, il n'y en a pas tant que ça, des référendums, Philippe Vigneron, sur cette question-là?
Ah, ça, je dois dire que, comme on est en politique franco-française, je préférerais laisser la parole.
Vous êtes à Aix-en-Provence, mais vous êtes aussi à Bruxelles en même temps. D'accord.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, un autre orateur.
Je voudrais profiter pour dire, peut-être introduire quelque chose de plus dans le débat, mais je ne sais pas si je m'écarte pas trop du thème.
Mais vous êtes libre.
C'est qu'on veut redonner plus de revivifier la démocratie. Est-ce que le scrutin majoritaire ne devrait pas être modifié pour un scrutin qui fonctionne plus à la proportionnelle?
Ah oui, ça c'est votre proposition pour la modernisation politique, c'est plus une dose de proportionnelle.
C'est une proposition, et encore une fois, peut-être ma culture nationale belge joue là-dedans. Hein. Donc je m'introduis là dans le débat franco-français avec une question qui peut être peut-être considérée comme un ovni.
Ah, mais il y a eu une dose de proportionnelle. Ça a existé. Et effectivement, c'est une autre manière de donner plus de place au peuple, en tout cas dans sa structuration politique, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est bien ça.
Gilles Delannoy.
Il faut surtout faire preuve d'imagination et... On peut avoir un système à l'allemande avec plus de proportionnels. On a en France un système avec deux chambres. On peut aussi, comme nous ne sommes pas un État fédéral, avoir une chambre qui soit élue à la proportionnelle, quitte à laisser à la chambre élue au scrutin majoritaire le dernier mot pour éviter un blocage du système, qui est le danger de la proportionnelle. Tout est possible. Et rappelons aussi que sans parlementarisme, il n'y a pas de référendum intéressant. Il faut les conditions minimales de la démocratie parlementaire pour qu'un référendum ne soit pas dictatorial. Il faut que l'opposition soit sûre, il faut que la parole soit libre, il faut absolument... La Suisse, c'est le pays du référendum, mais aucun référendum ne se fait sans que le Parlement n'ait eu son mot à dire ou que sur les initiatives populaires, il fait un contre-projet. Donc, il ne s'agit pas non plus... Ça, la vraie démagogie, au fond, c'est qu'on soit partisan du référendum ou du régime parlementaire, c'est de les opposer totalement.
Les deux, entièrement d'accord.
D'ailleurs, il y a une chose qui existe, pour le moment un peu virtuellement, mais en tout cas dans les textes, qui est le référendum d'initiative partagée. Donc là, on est dans un partage entre les électeurs et leurs représentants, puisqu'il faut un cinquième des parlementaires et un dixième des électeurs inscrits, et qui seraient à l'origine d'un référendum. Ça change quelque chose, ça, dans l'imaginaire du référendum, Olivier Roucan?
Ça
date de 2013, je crois, dans les textes.
Oui, enfin pour la loi organique, mais si vous voulez, ça donne un bon exemple du thème évoqué par Monsieur Delannoy, c'est-à-dire que les deux types de démocratie doivent trouver des articulations, être complémentaires et se régénérer l'une l'autre. C'est-à-dire qu'en effet, les cliver, c'est en effet se placer dans une situation qui est intenable. Hein, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, on peut se demander si, à bien des égards, on n'en est pas un peu là. C'est-à-dire qu'on oppose l'élite de la représentation au peuple et à son expression directe. Et on voit très bien ce qu'il y a derrière cette opposition. Or, c'est tout, on se met dans l'impasse. Et donc, les ingénieurs institutionnels doivent combiner des formules, innover, imaginer pour fluidifier un peu, aussi bien au niveau local qu'au niveau national et peut-être européen, ces choses. Et la proportionnelle pour améliorer la diversité de la représentation, ou une dose, pour quand même garder un gouvernement possible, c'est évidemment un des outils aussi.
Mais justement, sur cette question de la complexité, ou peut-être d'un débat qui donnerait l'air d'être entre une certaine élite politique et finalement qui ne partagerait pas cette réflexion immédiate avec le pouvoir, est-ce que c'est pas ce à quoi on a assisté là, hier, de manière peut-être un peu, en tout cas tel que c'est raconté, un peu brutal, ce qui est arrivé hier? C'est-à-dire que l'Europe, peu ou prou, ou à tort ou à raison, donne une forme d'impression d'automaticité des choses et de grande complexité des choses. Et là, tout d'un coup, il y a la possibilité pour le peuple de dire quelque chose. Est-ce que ça ne nous pendait pas au nez de toute façon, que ce soit en Grèce ou ailleurs, ce désir finalement d'avoir voix au chapitre immédiatement sur des questions européennes, Gilles Delannoy?
Écoutez, sur le cas grec, je suis partagé pour vous répondre parce que j'ai envie d'abonder dans votre sens, enfin dans le sens de votre question, en disant le référendum peut être un excellent moyen pour dédramatiser et dénouer une crise, mais dans le cas grec précis, ça n'est pas absolument certain, à moins qu'on puisse dire qu'on fait monter les enchères des deux côtés, le risque de la sortie de l'euro est assumé, cette fois définitivement, et de l'autre côté, ça permet peut-être d'obtenir plus pour les Grecs.
Et voilà, c'est déjà terminé. Merci d'avoir été avec nous, Gilles Delannoy, Philippe Vigneron et Olivier Roucan. Gilles Delannoy, je cite La Nation aux éditions Le Cavalier Bleu, c'était en 2010. Les paradoxes de la zone euro, c'est vous, Philippe Vigneron, vous avez signé en 2010 avec Jacques Bourinet aux éditions Bruylant. Et Olivier Roucan, Droit constitutionnel et gouvernance politique chez Gallinot en 2014. Du grain à moudre d'été, c'est Claire Maillot à la préparation et à la coordination avec Henri Leblanc, Meryl Moneghetti, cette semaine aussi Céline Leclerc et Marie Vidal. Au son ce soir, c'était Jacques Azubert à Paris et Benoît Moreau à Aix-en-Provence. Et à la réalisation, Anne-Laure Chanel. Du grain à moudre d'été, c'est à réécouter, podcaster, commenter sur franceculture.fr. Et on échange aussi sur Twitter. Communiquez.